Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Survivre à sa vingtaine, le podcast où on aborde l'identité, les études et la vie sociale au temps d'Instagram. Mon nom est Luna Marois-Demers et avec ma co-animatrice Danielle Horn, aujourd'hui nous parlons de la relation entre la génération Z, c'est-à-dire nous, et la technologie. Oui, oui, Instagram, tu n'y échapperas pas, on parle bien de toi aujourd'hui. Alors, Danielle et moi venons d'avoir 20 ans et tout comme vous, nous tentons de survivre à notre vingtaine. Bonne écoute!
Avant de prendre part à la vie moderne, les enfants et la crise de la quarantaine, il faut survivre à sa vingtaine.
Il faut survivre à sa vingtaine. OK, désolée, je voulais vraiment le faire. Donc, bienvenue tout le monde au troisième épisode où...
Salut!
Oui, allô, Daniel!
Je voulais m'inclure, là.
On parle du troisième volet de nos piliers, qui est la vie sociale au temps d'Instagram. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce que... Ben, pourquoi on a inclus, d'ailleurs, Instagram dans notre description et pourquoi on a vraiment insisté pour le mettre dans l'introduction. Pour la raison qu'on caractérise un peu notre génération... Ben, la génération Z. Souvent, on était caractérisé de la génération avec la manette greffée dans la main, le téléphone sous les yeux.
C'est un peu vrai. Moi, je me promène dans le métro, dans le bus, dans les restaurants, tout ça, et là, je vois 4 personnes à une table, assis, qui sont probablement amis, qui se connaissent bien, puis ils sont tous sur leur cellulaire. Ou là, dans le bus, tout le monde est sur son cellulaire. Alors, je comprends que les gens nous décrivent comme ça.
Mais c'est grandir avec la technologie aussi, mais ça me fait penser un peu à un article que j'ai vu, et c'est vraiment une phrase que je pensais qu'on pourrait débattre, parce que je savais pas si j'étais à la fois révoltée, ou j'étais comme « Ah, c'est vraiment une bonne définition », mais c'est un article de Pierre Fouglia, du journal La Presse, le chroniqueur dans Les enfants moules, qui nous définit d'ailleurs comme des enfants moules, et ça va comme suit « Si, ce sont des moules, souvent, d'abord, parce qu'ils passent une partie de leur vie éveillés devant la télé. Cette passivité, cette minéralité, cette habitude prise de recevoir un savoir sans effort, cette pédagogie magique, comme la pensée du même nom, qui les prépare si mal à la douleur d'apprendre. C'est dur d'apprendre, non? Comment tu l'as pris, cette phrase que je viens de te lire, Danielle?
Vas-y, Luna. Moi, je vais t'écouter, puis après ça, je vais donner mon point de vue.
Éveillé devant la télé, c'est vrai quand même que, mais comme je disais tantôt, la caractéristique de notre génération, c'est vraiment la technologie, mais ouais. Le point qui souligne est peut-être pas le point négatif que moi j'aurais souligné, parce qu'au début de la technologie, je pense qu'apprendre par la technologie n'était pas nécessairement négatif. Moi, je pense d'ailleurs à ceux qui nous écoutent qui ont joué au Nintendo DS, ou encore, moi j'avais un vieil ordinateur, et on... Je pense que ça apprenait quand même la patience un peu, parce que cet ordi-là, il faut préciser, prenait à peu près 2 heures à s'ouvrir. Et il fallait pas cliquer sur le mauvais bouton, sinon ça partait. Et ça, si la technologie était encore de nos jours et que, par exemple, pour ouvrir Instagram, il fallait faire 2 heures de devoir avant que ça s'ouvre, je pense que ce serait encore positif.
Je pense que la technologie aussi, ça apprend la débrouillardise beaucoup, parce que je compare notre génération à celle de nos parents. Je prends un exemple de ma mère et son téléphone. Ma mère, elle est quand même assez à l'aise avec la technologie, elle sait comment son téléphone fonctionne, mais des fois, elle arrive sur une nouvelle application ou peu importe, puis elle sait pas comment ça fonctionne. Puis je comprends, c'est vraiment normal, mais moi non plus. Mais la différence entre ma mère et moi, c'est que moi, j'essaye des choses, j'essaie de me débrouiller, j'essaie de voir dans les onglets, dans les petits boutons, dans les réglages, tout ça, tandis que ma mère est moins à l'aise avec ça. Donc, je pense que le fait qu'on ait commencé jeune avec la technologie puis de se familiariser avec ça, quand on arrive devant une situation où on n'est pas certaine comment ça fonctionne, peu importe, on est quand même capable de se débrouiller. Essayer de deviner, essayer de se débrouiller.
C'est vrai que la manière dont on a hiérarchisé les compétences, parce que je pense que, justement, moi, je parlais à ma mère qui me racontait qu'il était en train, il y avait beaucoup de pâtes à modeler, beaucoup de travail manuel quand elle était à l'école, justement, et étant donné que les enfants jouaient dehors, souvent dans un carré de sable, on développe d'autres compétences que devant l'ordinateur. Eux, peut-être, c'était le côté plus manuel. Et nous, il y a quand même une résolution de problème qui c'était... Je pense juste que c'est la manière dont ça a été catégorisé, parce que ça fait penser à un jeu vidéo qu'on a joué ensemble, justement, Roller Coaster Tycoon 2, qui était... au fond, on créait un parc d'attractions.
C'était tellement le fun.
Oui. On a joué ensemble souvent. Et aux alentours de 10 ans, on était vraiment familiarisés avec des concepts qui vraiment arrivent plus tard dans la vie. Par exemple, si on construisait un manège, c'était nous qui définissions combien ça coûtait. Admettons, je bâtis la petite glissoire. Et si je charge un prix trop bas, mon parc d'attractions perd de l'argent et je ne peux pas payer toutes les concierges
oui.
ou les mécaniciens. Mais si, par exemple, je mets mon prix trop haut, tous les petits bonhommes, quand ils arrivent devant la ligne d'attente, ils tournent et ils font « non, 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 non » et exactement. Ils s'en vont dans l'autre manège. Des petites compétences comme ça. Et aussi, comme tu disais, la créativité. Parce que ce jeu, je jugerais pas étant donné que j'ai pas joué à Fortnite ou les nouveaux jeux qui sont sortis, mais il y a une créativité aussi qui en ressort de... d'être dans une interface un petit peu qui laisse plus de liberté. Par exemple, il y a quand même des limites à ce qu'on peut faire avec une pelle et un seau dans un carré de sable. Mais par exemple, moi, un de mes cousins qui est programmeur, maintenant en jeu vidéo, il a découvert sa passion parce qu'il y avait un problème technique dans son jeu de course d'auto. Et plutôt que de jouer aux courses automobiles, si tu poussais brusquement la voiture à côté de toi, ça faisait des explosions. Okay. Alors, lui, il avait réinventé le jeu de manière à compter combien d'explosions étaient possibles, combien de voitures puis-je faire exploser.
Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est que, en gros, je pense que l'aspect de l'apprentissage, c'est pas l'élément que je soulignerais. Dans la phrase, c'était vraiment l'aspect de l'apprentissage qui était comme ah, ça a été. Les gens de notre génération ont moins. Je pense qu'il y a des aspects plus importants qui ressortent de ça, comme l'aspect social. Dont on a quand même souffert au niveau social et au niveau manuel, que je pense que c'est les deux éléments qui sont les plus importants, puis ce qu'on a moins développé à cause de la technologie.
Mais moi, j'ai un autre point à ajouter à ta liste. J'étais d'accord pour les deux, mais autant social, il y a des gens qui argumenteront qu'il y a quand même des gens qui ont utilisé le PictoChat du Nintendo pour se faire des amis.
Oui.
Mais un autre aspect, qui je pense qui est vraiment le cœur de notre podcast aujourd'hui, qui... parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cet aspect qui s'en vient, qui sera peut-être un peu plus long d'ailleurs, mais la performance. Notre génération, il n'y a pas... Quand on joue dans un bac à sable, quand on joue au menuisier ou à la cuisine, il y a un mode d'emploi, mais il n'y a pas vraiment de fin. Par exemple, Cindy, l'enseignante de maternelle, peut justement... c'est vraiment quand Madame Cindy tape des mains et c'est terminé, le jeu de la cuisine, que c'est terminé. Il n'y a personne qui va gagner le jeu de la cuisinette en assommant quelqu'un d'autre avec un micro-ondes ou en décidant de cuire plus de poulet. Ces jeux-là n'ont pas de fin. On est vraiment dans le ludique, dans le jeu de la cuisine. Alors que dans le jeu vidéo, il y a quand même une notion de performance. Même le jeu du parc d'attractions, le but est quand même de remplir des objectifs. Oui, j'ai réussi à maintenir un total de 1000 personnes dans mon parc, alors je suis allée au prochain niveau. Oui, j'ai combattu une tortue dans Super Mario et j'ai réussi à changer pour le prochain monde. Toujours cette idée d'aller vers le meilleur. Et on est constamment dans cette idée de performance d'être toujours meilleur et on peut pas se satisfaire comme d'un état qui est stable. Il faut toujours aller au prochain niveau. Et ça montre un petit peu pourquoi il y a certains comportements que notre génération a adoptés sur les plateformes électroniques qui sont venues plus tard que ma grand-mère n'a pas. Ma grand-mère est très heureuse avec ses 4 amis Facebook à qui elle envoie régulièrement des messages. Mais nous, si, exemple, tu croises quelqu'un qui te plaît à l'université, tu vas sur Facebook, 4 amis Facebook,
ouais.
On sent l'intérêt de Daniel vient de partir par la fenêtre.
Mais oui, mais est-ce que tu penses que c'est beaucoup lié à au fait qu'on est constamment en train de se comparer?
Mais je blâme pas le jeu vidéo non plus, mais je pense que notre génération a été élevée de la manière un petit peu... à toujours être meilleur. Et c'est pour ça, justement, qu'on veut toujours en avoir plus. Et que, un petit peu, le média... Mais c'est qui déjà qui disait le média?
Le média, c'est le message.
Le médium, c'est le message.
Le médium, c'est le message. C'est McLuhan.
Ouais.
Marshall McLuhan.
Wow. On a réussi à flaguer de la théorie de la com, dedans. Mais par ce média-là qui a façonné nos vies, moi, j'ai l'impression que, malheureusement, ça a créé les gens un peu plus anxieux.
C'est rare des gens qui se contentent de ce qu'ils ont en ce moment parce que justement avec les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, tu vois constamment quelqu'un qui a plus ou qui est meilleur ou qui... Justement dans les jeux vidéo, on disait tantôt que tu disais que la personne veut toujours se rendre au plus haut niveau puis continuer. Mais justement quand tu parles à tes amis, puis là, oh moi je suis rendu au niveau 37, oh non moi au niveau 125, t'es jamais... Si t'es le plus haut niveau, t'es content, mais tu veux quand même faire plus parce que tu sais que tes amis vont te rattraper.
Constamment. Et... on a cette idée-là aussi que le média n'est pas le même, étant donné que Facebook... Moi, il a fallu que je découvre Instagram, qui est quand même assez récent, je pense que j'avais découvert depuis un an. Et j'ai réalisé à quel point Facebook était gentil par rapport à Instagram. Facebook, par exemple, on a quand même l'idée de combien d'amis tu as, mais il y a tu peux le cacher. Par exemple, combien tu as d'amis? Ah, tu peux le montrer que tu as 600 amis, tu le caches.
Ouais.
Et on se bâtit quand même sur le lien, et c'est réciproque. Lorsque je te fais une demande... on est les deux amis également. Instagram, moi, ce qui m'a le plus choqué quand je l'ai découvert, c'est Moi, je peux te suivre.
Oui.
Toi, tu peux accepter que je te suive, mais tu ne me suivras pas. Ouais. Et ça crée une hiérarchie encore de... Ça revient encore à la même chose de... Ah, moi, j'ai la casquette bleue sur Super Mario et pas toi, parce que toi, t'étais le troisième joueur et tu joues sur la vieille manette trouvée au fond de l'armoire.
Ça devrait pas nous atteindre, mais je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais c'est très insultant de te rendre compte que la personne avec qui tu pensais que t'étais amie sur Instagram, et mais non, tu la suis, mais elle ne te suit pas.
Mais Instagram aussi, par exemple, moi, quand j'ai commencé, on m'avait dit, il faut que tu aies un certain nombre, sinon ça fait bizarre.
Ah ouais?
Mais je me suis fait... J'avais un ami qui avait décidé que quand j'ai créé mon Instagram, moi, j'étais parfaitement à l'aise d'avoir à peu près ma famille dans mes amis, mais on m'a dit « Ah, mais fais attention, les gens regardent le nombre d'abonnés puis un certain ratio dans lequel se tenir. » Je sais pas si c'est vrai, mais ça, tu sais, on est nouvelles sur un réseau social et c'est les vacances, donc.
Mais est-ce que, honnêtement, quand tu rencontres quelqu'un, ou peu importe si c'est ami ou relation ou peu importe, est-ce que si tu vas le stalker sur Instagram, tu regardes sincèrement le nombre d'abonnés qu'il
y a? Moi, ça m'affecte pas. Ce qui m'affecte, c'est ce qui m'est arrivé dernièrement de me faire suivre et de suivre quelqu'un qui a 17 000 abonnés. Ça m'en dit long sur les... Mais pas les valeurs. Tu sais, tu peux avoir 17 000 abonnés, mais je me dis, pour quelqu'un qui n'est pas... Tu sais, une personne, monsieur, madame, tout le monde, qui a 17 000 abonnés, il faut à un certain point que tu aies fait certaines choses.
Pour avoir ce nombre d'abonnés.
Oui. Parfois, c'est des choses incroyables. Par exemple, moi, j'ai une amie qui a... Je pense qu'elle a 2 000 abonnés et elle met vraiment des vidéos d'elle qui joue au tennis. Et il y a des gens en Californie qui ont trouvé qu'elle avait un bon coup droit. Et c'est génial, une fille de 6 pieds 2 qui a un bon coup droit et la suivent. Mais d'autres personnes, parfois, c'est allé dans des dimensions que je me dis, est-ce que j'aurais fait ce défi-là? Est-ce que j'aurais fait ça?
Ouais.
Et on est encore dans la performance. Justement, j'ai fait une randonnée en montagne cette semaine au chalet. Et ça disait clairement, n'allez pas sur ce côté-ci de la montagne parce que c'est glissant et il y a une chance de tomber. On était quand même assez haut. Et la première chose que je vois, c'est plein de personnes qui traversent la barrière pour prendre une photo pour Instagram. En tout cas, ça nous montre un petit peu comment Instagram a eu un impact sur nos vies et qualifie. Donc, est-ce que nous sommes vraiment les enfants devant la télé qui passent, si je relis encore, parce qu'ils passent une partie de leur vie éveillée devant la télé. Oui, on passe une vie éveillée devant la télé.
Vrai.
Et est-ce qu'on est des enfants moules? Je dirais, chaque génération est moulée par quelque chose. Parce que je pourrais écrire un texte, moi aussi, sur on pourrait dire la génération des 50 ans, c'est à peu près nos parents,
oui.
La génération marteau et pelle, corps et de sable. Ah, oh, vous êtes des enfants, corps et de sable. Alors, oui, est-ce que nous sommes des enfants moulés par Instagram? Oui, mais je pense qu'en étant conscient de ça, on peut parfois apprendre à bâtir autour et... Oui, réaliser un petit peu nos mécanismes et essayer de les combattre peut-être. Donc, encore une fois, merci d'avoir été avec nous et...
À la semaine
prochaine! On raconte notre vie à l'antenne, en espérant pas le regretter dans la trentaine. Mais c'est comme ça qu'on survit à notre vingtaine.